d'une première forme du clan d'Israël, celle qui est née avec Abraham Avinu. C'est une fin parce que jusque-là, disons depuis Abraham Avinu jusqu'à ce moment-là, les gens pratiquaient la Torah, mais ils ne l'avaient pas reçue. Donc ils pratiquaient une Torah qu'ils trouvaient au fond d'eux-mêmes, en fait. Comment ils la trouvaient au fond d'eux-mêmes? La mesure où on dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en Istakel Beoraita ou Bara Alma, il a regardé la Torah et il avait écrit la Torah longtemps avant et il a créé le monde en fonction de la Torah. Donc la Torah est un plan du monde. Et donc si elle est le plan du monde, elle doit se lire quand on lit le monde. N'est-ce pas? Un architecte qui voit un bâtiment, il peut, s'il en fait le tour, s'il a accès à ce bâtiment, il va pouvoir recréer, réécrire, redessiner les plans de ce bâtiment. Pourquoi? Parce que les plans du bâtiment sont dans le bâtiment. Faut juste savoir lire. De la même manière qu'il faut savoir lire un plan pour s'imaginer un bâtiment, il faut aussi savoir lire le bâtiment pour s'imaginer les plans. Donc si donc tout ce qui est créé dans le monde a été créé selon un certain plan. Donc nous avons le plan du monde en nous. Sauf que nous ne sommes pas capables, pour la plupart d'entre nous ne sommes pas capables d'accéder à ce plan. Pour toutes sortes de raisons, et c'est parce que finalement cet essai-là de fabriquer un clan d'Israël avec ces conditions, c'est des gens qui comprendraient ce qu'il faut faire à Pitora sans qu'on leur donne la Torah de l'extérieur. Et ça n'a pas marché. Ça reste néanmoins un modèle. C'est un peu paradoxal que ce soit un modèle parce que, d'une certaine manière, c'est plus la même chose. La preuve, entre autres, c'est que quand des gens qui ont la Torah de cette manière-là peuvent penser, qui ont une hauteur de vue, quoi, ils peuvent penser ces gens-là peuvent, comme dire le Nefesh HaRaim, en fonction du shoresh de leur neshama, de la racine de leur neshama, ils peuvent penser que dans certaines circonstances, il faut qu'ils fassent autrement que ce que le plan leur dit. Et donc, et l'être humain, il a été fabriqué de telle sorte qu'il peut désobéir. Là, en l'occurrence, c'est pas une désobéissance, parce qu'ils n'ont Ils n'ont pas d'obligation. Si quelqu'un, on ne peut pas le faire, mais si quelqu'un voulait arrêter de respirer, il transgresse aucun intérêt, aucun interdit. Sauf que ça ira pas très loin, il n'arrivera pas un pas. Sinon, il va mourir. Mais s'il en était capable, il allait mourir. Et donc, les deux grands exemples, c'est que le clan d'Israël, il se construit par la formation des fameuses 12 tribus qui sont le noyau du clan d'Israël. Ces 12 tribus ont été produites par 4 femmes, 2 femmes et 2 servantes de leurs servantes. Et ces 2 femmes étaient 2 sœurs. Et Jacob a épousé deux sœurs, vivant l'une de l'autre. S'il avait reçu la Torah, quelle que soit la hauteur de sa pensée, etc., il n'aurait pas eu le droit de le faire. Alors c'est même paradoxal. Le clan d'Israël est construit avec quelque chose qui, si la Torah avait été donnée de l'extérieur, donc c'est un certain état de la Torah, l'interdit. Or, le clan d'Israël, il n'existe pas sans Yaakov. Et le clan d'Israël qui sort d'Égypte avant Matan Torah, et depuis la sortie d'Égypte, il est guidé par trois parnassim. Il y a trois patrons du clan d'Israël. Ces trois patrons sont des frères et sœurs. S'appellent Moshe, Aaron, Myriam. C'est les enfants d'un couple. Amram, leur père, il a épousé sa tante. Épouser sa tante, c'est assourd pour nous. Et donc ça veut dire le clan d'Israël a été fondé est dirigé à partir de couples qui n'auraient pas dû exister d'après la Torah. Alors, vous pouvez réfléchir à ce que ça peut bien vouloir dire, mais c'est quand même extraordinaire, quand même, de penser ça. À part le fait que le clan d'Israël ne pouvait pas vraiment exister, parce que ce soit Sarah ou Rivka, c'était deux femmes qui n'avaient pas d'utérus, donc il n'y avait pas beaucoup de chance que il y a une suite d'Abraham et une suite de Yitzhak. Et donc, le clan d'Israël dans cette version-là, il disparaît. Et le lieu de cette disparition est aussi l'endroit où va se construire ce qui va naître avec la sortie d'Égypte. Donc c'est à la fois une espèce de mort et un prélude en tout cas à la vie, enfin une prévie, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors la paracha, elle commence par quelque chose d'assez étrange. Hachem parle à Moshe, il lui dit « tu vas aller chez Paro ». Mais je te dis tout de suite, tu vas lui dire à Paro, let my people go, ok? Et Paro va te dire non. Mais en fait, pourquoi je t'envoie? Parce que il va dire non, mais pas parce que il peut dire non. Les makot qu'il a déjà reçues, elles sont déjà tellement fortes qu'il va céder. Il peut pas tenir le coup. Il veut pas céder, mais il peut pas faire autrement. Ça fait trop mal à l'Égypte. Mais Hachem dit à Moshe, Anir batietlib. Moi, je lui donne la possibilité de résister. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on disait, Paro, désormais, à titre personnel, il a fini sa carrière. On veut plus rien de lui, on va pas le juger pour ce qu'il va faire maintenant, parce que maintenant il va résister, il va refuser, etc. Mais c'est parce qu'Hachem lui a donné la possibilité de résister. Donc c'est vrai qu'il voudrait résister, mais maintenant il devrait céder. Si Hachem ne l'aide pas, il cède. Hachem l'aide. Hachem dit, pourquoi est-ce que je l'aide? Parce que j'ai encore, il y a 10 makot. Et il sait, c'est connu, c'est écrit sur le bâton de Moshe, etc. Il doit y avoir 10 makot. Ces 10 makot, est-ce qu'elles ont à voir avec le fait qu'il y a Asara Ma'amarot, il y a 10 makot, puis ensuite il y a Aseret HaDibrot. D'accord? Ça, tout ça, ça, le fait que ce soit à chaque fois 10, etc. Que ce soit 10, c'est pourquoi c'est décimal? Pourquoi on est dans ce système-là? Le Sefer Yetzirah, il dit, c'est parce qu'on a 10 doigts aux mains et aux pieds. C'est comme ça. Nous, on est, alors, tout n'est pas absolument décimal. Par exemple, on a 12 tribus. Alors c'est sûr que 12, c'est beaucoup mieux que 10 du point de vue du nombre de diviseurs. C'est plus riche. D'accord. Mais bon, c'est 10 et il y a quand même 12 tribus. Donc, même dans les civilisations dans lesquelles on a adopté le système décimal, mais pour mesurer le temps, on n'est pas passé au décimal. C'est toujours 12, 24, 60 minutes, 60 secondes, 60 minutes, 60 secondes. Après, bon, on a gardé ce système. Comme si le temps, lui, il était hors norme, quoi. Même dans les normes avec lesquelles on travaille, les heures, c'est autre chose, quoi. Les heures, c'est. Il y a bien sûr des pays où on a continué de garder le système de décimal. Les Anglais, avec leur système, ils sont pas passés au décimal, ou pas tous, en tout cas. Je sais pas si officiellement c'est passé ou pas, mais encore, voilà, la monnaie, elle fonctionne encore beaucoup. OK. Et donc Hachem dit, je veux manifester Ototai, mes otot, mes signes. Hachem dit, j'ai des signes. Je marque le monde avec des signes. Ma présence. Et je veux qu'il y ait la trace par mes signes au sein du peuple égyptien. OK? C'est presque un compte qu'Hachem veut régler avec l'Égypte. Mais où le man? Mais dans ce verset, c'est marqué, c'est le deuxième verset de la paracha, où le man, mais aussi de sa père, pour que tu racontes. Donc ça s'adresse au Bnei Israël. A priori, ça s'adresse à Moshe Rabbeinu, mais bon, par extension, ça va s'adresser à tout le clan d'Israël. Le man, c'est sa père, celui auquel il dit tu à ce moment-là. Hachem, c'est Moshe. Que tu vas raconter, toi? Tu vas raconter comment je me suis moqué de l'Égypte. Tu vas aussi raconter les signes que j'ai mis dans l'Égypte. Et tu vas raconter ça à ton fils et à ton petit-fils. On veut que ça, pour être sûr que ça passe. Il faut le grand-père, il doit le raconter à son petit-fils. Il ne peut pas simplement se contenter de l'enseigner à son fils, qui lui, a priori, va faire la même chose, non? Comme si on était en charge, d'accord, d'assurer la transmission, pas seulement la mienne, mais celle de mon fils. D'assurer que mon fils transmet. Et donc, je vais le raconter. Moi-même, je vais aussi raconter. Donc, du coup, ça fait partie de. Ça existe avant même l'existence du clan d'Israël. Le man te saper, mais à qui on s'adresse ici? Le clan d'Israël en tant que ceux qui vont sortir d'Égypte, il n'est pas constitué encore. Ils ne sont pas encore sortis d'Égypte. Ça, c'est dit dans Bo El Paros, et on est encore au milieu des Makot. Et Hachem dit déjà, je veux que tu racontes. Quelque part, et alors c'est spécial parce que les récits en général, c'est le récit, les gens ils racontent leur guerre. Il y a eu la guerre, et ensuite on la raconte. Ici, c'est pas du tout comme ça. Hachem dit, je fais les choses pour que tu les racontes. C'est pas que j'ai fait les choses et je veux que tu les racontes. Je ne les fais que pour que tu les racontes. Donc c'est comme si, à la limite, si on avait pu provoquer une hallucination générale du clan d'Israël et qu'on le raconte, on arrive à leur faire raconter, ça aurait marché aussi, sauf qu'Hachem, il veut pas, il pourrait, J'ai pas de doute qu'Hachem aurait pu faire une hallucination collective comme celle-là aussi, mais il veut que ça soit vrai au sens habituel du terme. Il y a des gens qui vont pouvoir en témoigner. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors, ces témoins-là, ceux qui sont adultes à ce moment-là, c'est des gens qui ont une expérience absolument extraordinaire. Bon, ils sont là, ils ont vu les Makot, ils vont sortir d'Égypte, ils vont traverser la mer, ils vont vivre le Sinaï, et normalement, ils auraient dû entrer en Eretz Israël. Et personne n'entrera en Eretz Israël, de tous ces gens-là, sauf Caleb et Yoshua. Même Moshe et Aaron n'entreront pas. Donc, tous ceux qui sont adultes et qui pourront dire, je l'ai vécu comme adulte, tous ces gens-là vont disparaître, ils n'entreront pas en Eretz Israël. C'est pas tout à fait vrai, ce que je vous dis. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont disparaître, tous ces braves gens? À cause de l'histoire, à la suite des Meraglim. La suite des Meraglim, l'histoire des explorateurs, les Juifs sont condamnés à errer une quarantaine d'années dans le désert. Et tous vont mourir dans le désert. Pourquoi ils meurent? Ils meurent pas à cause des Meraglim. Ils meurent parce que quand ils ont fait le veau d'or, Rosh Boucha dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Et ce que Moshe Rabbeinu a obtenu, dit le Gaon de Vilna, c'est un sursis. Et le sursis est tombé après les Meraglim. Donc, il meurt à cause du veau d'or, à l'occasion des Meraglim. Mais ne meurent que ceux qui ont fait le veau d'or. Plus exactement, c'est assez curieux d'ailleurs, parce que, bon, je vais dire ça après, mais il y a une grande partie du peuple juif qui ne meurt pas, ce sont les femmes. Les femmes, elles ne meurent pas, parce que les femmes, elles n'ont pas fait le veau d'or. Quand tout le monde a pleuré pour le Meraglim, elles ont pleuré avec tout le monde, mais ils ne meurent pas à cause des Meraglim, ils meurent à cause de la peine de mort qui avait été prononcée contre eux, par Hachem, contre ceux qui ont fait le veau d'or. Mais les femmes n'étaient pas dedans. Donc les femmes ne vont pas mourir autrement que de mort naturelle. Donc le clan d'Israël qui va entrer en Eretz Israël, il est complètement déséquilibré entre les hommes et les femmes. Il y a les hommes, il y a leur mère. Il n'y a plus leur père, mais il y a leur mère. Alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est pour ça que je voulais dire avant, mais le problème, c'est l'Elvim. On explique que la raison pour laquelle les Prorotes, qui étaient depuis le début, sont disqualifiés et ne sont plus les Kohanim à cause du veau d'or. Et on le sont remplacés par des gens de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que les gens de la tribu de Lévi n'ont pas fait le veau d'or. Quand Hachem a dit Melachem Elai, les Lévim sont venus. Parce qu'eux, ils n'avaient pas fait le veau d'or. Mais s'ils n'ont pas fait le veau d'or, ils ne devraient pas mourir alors. Pourtant, à ma connaissance, tout le monde est mort. Plusieurs fois dans Chazal, on voit que les seuls qui vont entrer, c'est seulement Yoshua et Caleb. Donc, quelque part, on est en train de dire deux choses contradictoires. Les Levim, Kohanim, ont été choisis parce qu'ils n'ont pas fait le veau d'or, mais finalement, ils n'entrent pas en Eretz Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question.
La seule tribu qui n'avait pas été mise en esclavage.
Oui, ça aussi. Là, je ne sais pas non plus pourquoi. Ce que je soupçonne, c'est la chose suivante. Quand Yaakov a décidé de descendre en Égypte, quand Yosef lui a dit de descendre en Égypte, dans le passouk, c'est marqué qu'il a envoyé Yehuda pour arranger les choses. Yehuda, c'est le roi. Il est en charge d'arranger les choses. Mais j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que le Rosh Yeshiva, c'était Lévi. L'organisateur, c'était Yehuda. Mais il a envoyé Lévi comme Rosh Yeshiva. Alors, puisque Lévi s'est consacré à l'étude de la Torah, ils étaient en dehors de toute cette histoire. Et de même que Yosef, l'Avdil, mais de même que Yosef n'a pas confisqué les terrains des prêtres en Égypte. Quand il a ramassé pour Paro tous les terrains, puisque les gens se sont vendus comme esclaves, etc., parce qu'ils n'avaient pas à manger, mais il n'avait pas pris de mesures contre les prêtres. Alors peut-être que les Égyptiens n'ont pas pris non plus de mesures contre les prêtres, les gens qui spécialisaient à l'étude, etc. Je n'ai pas de preuves là-dessus. Un jour, j'ai essayé de réfléchir là-dessus, je suis arrivé à ça. Si vous avez une autre explication, il y a sûrement des explications, c'est juste que je ne les ai pas trouvées. Et celle-là, elle me paraît intéressante. Voilà, donc, ce qui est très important, c'est qu'on n'est même pas encore un peuple. Parce que cette histoire de peuple, il faut se souvenir aussi après que Moshe Rabbeinu est averti Paro de Makat Bechorot, de la dixième plaie, et que Paro lui a dit, va-t'en, je ne veux plus te voir, et si je te vois, je te tue. On comprend bien que il dit n'importe quoi, parce que bien sûr qu'il a essayé de tuer Moshe quand Moshe est arrivé. Ils n'ont pas déroulé le tapis rouge quand il est venu dire à Paro, let my people go. On voulait le tuer, mais bon, pas il a voulu. On dit que c'est la nuque est devenue dure comme du marbre, etc. Donc le gars qui voulait lui couper la tête, c'est son épée qui s'est brisée, etc. Donc quand il lui dit je te tue, ok, ça fait plusieurs fois que tu as essayé, ça n'a pas vraiment remarché. Mais le problème, c'est que tout de suite après, marqué dans le passage, c'est chapitre 11, verset 2, Daber na beozne ha'am, vishalu ish metre'u, visha metre'uta, kle chesef, ou kle zahav. Ils ont demandé. Alors, on a l'habitude de lire que les Bnei Israël ont emprunté auprès des Égyptiens de l'or et de l'argent, et qu'ensuite ils sont partis et n'ont jamais rendu. Le Gaon de Vilna, il dit que dans le verset, c'est marqué. Vishalu ish met re'eu, veisha met re'uta. Re'e, ou re'uta, c'est les mots qu'on retrouve dans Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras, ce qu'on traduit par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le re'a, c'est mon prochain. Est-ce que c'est la bonne traduction? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on traduit. C'est le même réa qu'il y a dans Ve'ahavta l'Eréchaka Kamocha. Mais le Gaon de Vilna dit que jamais dans la Torah, le réa est un goy. Donc mon prochain, ce n'est pas un goy. Donc ici, ce n'est pas marqué que vous allez emprunter auprès des goyim. Et dans ce cas-là, ils ont emprunté auprès de qui? Auprès des juifs? Vous connaissez, il y a une Gemara qui est mise en scène au temps d'Alexandre le Grand. Les Égyptiens sont venus et ils ont dit à Alexandre, nous venons réclamer la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que quand les Juifs sont partis, ils nous ont emprunté de l'or et de l'argent. Et ne nous ont jamais rendus. Alors, Alexandre a fait venir les Chachamim, il leur a demandé, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils ont dit, donne-nous 3 jours pour qu'on réfléchisse. Et quand ils ont réfléchi, il y a un jeune rabbin, comme on dirait aujourd'hui, qui a dit aux anciens, il leur a dit, écoutez, laissez-moi aller négocier avec les Égyptiens devant Alexandre. Si je réussis, c'est bien. Et si je ne réussis pas, vous pourrez toujours dire, mais qui c'est ce petit, on l'a jamais, il nous représente pas, et vous irez, vous, à ce moment-là, négocier comme vous pensez. Et les Chachamim ont dit, tu peux y aller. Il est allé et il a demandé aux Égyptiens, sur quoi est-ce que vous vous basez pour nous demander des sommes pareilles. Alors ils disent, on se base sur la Torah. Alors il dit, ah, ok, alors moi aussi je vais me baser sur la Torah. Et il a expliqué à Alexandre que dans la Torah c'est marqué, voilà, on était 600 000 qui sont sortis, mais en vérité, il n'y a qu'un cinquième des Juifs, donc on était 5 fois plus que 600 000. Et on a travaillé 86 ans en esclavage, 87, 86 ans en esclavage. Et donc il a fait la multiplication. Et à temps et temps de l'heure, ils nous doivent beaucoup plus que ce que les Égyptiens demandaient. Alors Alexandre a dit, OK, alors, les Égyptiens sont partis. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du fait que effectivement on a eu des kélim, des ustensiles en or et en argent qui venaient des Égyptiens et on ne les a pas rendus, c'est vrai. Dire après coup que finalement c'est le salaire qu'ils auraient dû nous payer et qu'ils ne nous ont pas payé. C'est un argument, mais c'est pas terrible comme argument. Tu aurais dû le dire d'emblée, quoi, que on prend ça pour ça. Mais je crois que ce qui est écrit là, ben, je sais pas, je croyais que le reste n'était pas écrit dans le Gaon, mais c'est aussi écrit dans le Gaon. En vérité, ce qu'Hachem a demandé ici, il a demandé aux Bnei Israël d'emprunter les uns aux autres les kélim. Pourquoi est-ce qu'il a demandé ça? Parce que les gens étant des esclaves, et ils sont des esclaves qui en sont à chercher un souffle, Kotzer Ruach. Ils sont occupés à essayer de trouver comment respirer tellement les conditions étaient atroces. Ces gens-là, chacun est pour soi. Chacun est occupé à chercher son souffle. Il n'y a absolument aucun lien entre tous ces gens-là. Donc, il n'y a pas d'embryon d'un peuple. On a une masse. Peut-être même le mot masse ne marche pas. Il faut dire, on a une quantité deux gens qui sont là, les uns à côté des autres, soumis aux mêmes conditions, mais qui n'ont pas de relation du tout entre eux. Et donc, comment tu veux sortir et en faire un peuple? C'est pas possible. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a demandé que les Bnei Israël fassent artificiellement des relations entre eux. Je te prête, tu me prêtes, je te rends, etc. Donc, ils ont artificiellement fabriqué des relations entre eux. Ils se sont aperçus que ça, c'était une société agréable. C'était bien. Et n'oubliez pas, les Bnei Israël, ils étaient complètement mélangés avec les Égyptiens. Il n'y avait pas de camp de concentration où les esclaves juifs étaient. Non, ils étaient en plein milieu. On va le revoir au moment de Makat Bechorot, où le Midrash dit que la voisine égyptienne, elle a demandé à sa copine juive à côté, est-ce que Toufik qui peut venir dormir avec Yankel pendant la nuit où il va y avoir les Makot, Makat Bechorot, comme ça, ils ont dit, chez nous, il va mourir s'il reste là-bas, mais chez toi, vous... Alors, ils ont accepté. Donc, ils étaient en très bonne relation. Et quand les Égyptiens ont vu que la société qu'ils avaient réussi à créer était une société agréable, ils ont dit, mais nous, on veut en être. Et nous aussi, on veut. Et donc là, ils se sont mis à emprunter, etc. Et du coup, les Bnei Israël ont reçu de la part de gens qui ont demandé, je veux en être, ça veut dire, je te prête. Comme ça, tu me rendras, je te prête, tu me rendras. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu de l'or et de l'argent, parce que les esclaves, l'esclavage était un genre qu'on ne peut pas s'imaginer. Les Bnei Israël étaient esclaves, mais ils avaient des troupeaux à Goshen. D'accord? Ils étaient propriétaires à Goshen. D'accord? C'était pas comme on s'imagine. L'esclavage était un travail insupportable. Les Égyptiens sont entrés dans l'intimité, ils ont essayé d'empêcher les gens d'avoir des enfants, etc. Tout ça, ils l'ont essayé de faire, mais les Juifs étaient là parmi eux, quoi. Et du coup, le mot Réa ici, c'est un Juif, tu emprunteras. Et donc, ce n'était pas du tout, au départ, une façon de. Parce que certains expliquent que, comme Hachem avait promis à Avraham Avinu que tes descendants ils seront esclaves, etc., que finalement ils vont sortir avec un grand butin, beaucoup de gens disent le butin c'est l'or et l'argent. Je ne crois pas du tout que ce soit ça le butin. Mais ça, on en reviendra après. Mais bon, c'est ce que je pense, quoi. Mais parce que je n'ai pas l'impression. C'est sûr qu'ils vont utiliser cet or et cet argent. Et cet argent, c'est un peu particulier parce que quand même, on a l'impression que cet argent, il n'est pas complètement cachère. Et s'il n'est pas complètement cachère, c'est difficile d'imaginer que cet or et cet argent va servir à construire le Mishkan. Quoi que vous voyez pas, enfin moi je vois mal construire le Mishkan avec de l'argent qui n'est pas 100% cachère. On peut dire il est cachère parce qu'on a, etc. Mais c'est désagréable. C'est désagréable. Il a fallu un truc, parce que c'est un truc que, quand il a raconté qu'il en était 600 000, on n'a jamais été 600 000 pendant 86 ans. 600 000, c'est juste au moment où on est sorti. Enfin, ou même. D'accord? C'est pas du tout. Je crois qu'il a même dit qu'on a travaillé 400 ans, parce que comme c'est marqué 400 ans, il a fait la multiplication par 400. On n'a jamais été pendant 400 ans esclave. Donc, c'est juste que vous prenez la Torah et vous la lisez à votre manière. OK, alors je vais prendre la Torah et je vais la lire à votre manière. Pourquoi il fallait être un jeune rabbin pour le lire, pour penser à ça, hein? C'est un sujet en soi. Pourquoi les vieux n'auraient pas pensé à ça? sais pas. OK. Donc, il y a la construction du clan d'Israël. Donc, ce clan d'Israël-là, il n'existe pas encore. Ils sont des individus centrés sur eux-mêmes. Et Hachem va artificiellement fabriquer des relations entre eux pour qu'on puisse avoir quelque chose qui se tienne un peu. Quand ils sortent d'Égypte et ils campent jusqu'à pendant les 50 jours, il faut entre Yetziat Mitzrayim et Sinaï, il fallait bien qu'ils campent quand même, ils campent. Ils campent chacun de son côté quasiment, ou en tout cas par groupe, jusqu'à ce qu'on arrive au pied du Sinaï, où c'est marqué Vayikhan Israël. Là-bas, c'est marqué au singulier, Israël a campé. À ce moment-là, ils sont devenus un peuple. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus un peuple qu'ils ont pu recevoir la Torah, ou est-ce que c'est parce qu'ils reçoivent la Torah qu'ils deviennent un peuple? OK. Alors, et voilà, il y a cette idée que Akadosh Baruch Hou, il dit à Moshe, voilà, on va leur fabriquer un espèce de récit national au peuple d'Israël, avec cette idée que Hachem va faire les choses pour qu'ils aient quelque chose à raconter. Et pas qu'Hachem demande raconter ce que j'ai fait. Je l'avais fait pour moi, quoi. Sur le fait que Akadosh Baruch Hou ne voulait pas que Paro cède à ce moment-là. Tu vas leur raconter une histoire à tes enfants et à tes petits-enfants. Raconter que parfois, les choses arrivent à un état, c'est-à-dire la personne arrive dans un état où elle ne peut plus faire tchouva. C'est ce qui arrive à Paro. Bon. Parce que pourquoi Hachem l'endurcit? C'est pas quelqu'un qui méritait pas d'être endurci. Après, lui, il aurait voulu, bien sûr, il aurait voulu résister. Mais maintenant, Hachem l'a cassé avec les makot. Mais comme lui voulait résister, et Hachem va utiliser ce bonhomme qui veut résister pour faire ce que lui, Hachem, voulait qu'il fasse. Voulait faire, pardon. La paro, c'est le prototype du bonhomme auquel on ne donne plus la possibilité de faire tchouva. De la même manière, de façon générale, si quelqu'un se dit, bon, dans ma jeunesse maintenant, je vais profiter de la vie, quoi, et puis sur mes vieux jours, je ferai tchouva. Ou celui qui dit, Echete ve'ashuv. Je vais fauter, mais je vais faire tchouva. Azali, n'en maspikin, il y a deux. On lui permet pas, on l'aide pas. Nous, dans la tfila, on demande à Hachem de nous aider à faire tchouva. J'étais plus jeune, je m'interrogeais toujours, je me disais, c'est étonnant quand même. C'est notre boulot de faire tchouva. Pourquoi on se tourne vers Hachem, on dit aide-nous. Voilà, tu es dans le monde pour ça. Comment se fait-il que une des 19 bénédictions, ce soit aide-nous à faire tchouva? L'idée, c'est que si Hachem ne nous aide pas, on peut pas faire tchouva. La tchouva, c'est un truc absolument extraordinaire. N'est-ce pas? Le fait qu'on puisse revenir sur ce que on a fait et le revivre d'une autre manière et de transformer quelque chose de négatif éventuellement en positif, ça c'est impensable. Ça c'est quasiment une preuve de tchouva, de Torah Min HaShamayim, parce que c'est impossible d'imaginer ça. Impossible de faire que ce soit comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la tchouva, elle a été créée avant le monde. Donc le monde a été créé dans un berceau. Si vous voulez, de tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos actions ne sont pas définitives. Si vous voulez, c'est comme dans certains contrats, vous signez, puis ensuite on vous demande d'écrire, je persiste et je signe. Pourquoi il faut que je persiste? J'ai déjà signé. Ça veut dire, est-ce que vraiment tu es d'accord avec ce que tu as signé? C'est ça l'histoire. Pour que ce soit possible de revenir en arrière, il faut que ce que nous avons fait ne soit pas définitif. Si c'est écrit dans le marbre, ça peut plus, on ne peut pas arranger. Mais par définition, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les hommes ne font pas des choses définitives du premier coup. Parce que la tchouva, elle fonctionne, mais ça fonctionne dans les deux sens aussi. Hein. Dans le Rambam, la halakha, elle est que si quelqu'un regrette les mitzvot qu'il a faites, il se dit, j'aurais mieux fait d'aller à la plage ce jour-là, au lieu de faire telle ou telle mitzvah, il perd le mérite de la mitzvah. C'est pas seulement quand on veut mieux faire, quand tu veux faire plus mal, peut faire plus mal parce que c'est pas définitif et ça peut pas être définitif dans un cas et pas définitif dans l'autre, sinon on serait des robots. La différence est trop grande entre les deux.
La différence dans lequel on ne marche pas, il fait un acte pour donner un.
Pardon, non?
On fait toujours, il fait que je suis là. Donc, il fait quelque chose, une action pour venir en avant. Dans le deuxième cas, où il regrette sa mitzvah, il fait rien.
On peut faire tshuva même sans faire un acte. L'agma, elle rapporte l'histoire de d'un grand bandit, d'un grand malfaiteur qui a fait à peu près toutes les avérotes qu'on peut imaginer. Et un jour, il a décidé de faire tshuva. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas, alors il a demandé de l'aide. Il a demandé l'aide au ciel, à la terre, au vent, à tout. Tous ont dit, écoute, nous, on a juste le minimum, on ne peut pas t'aider. On s'est marqué qu'il a pris une position fœtale, il a pleuré et il est mort. Il y a un bat kol qui est sorti, qui a dit à son sujet, Rabbi, il appelle Rabbi, Mezumal Olamaba. Et Rabbi a dit, c'est incroyable. Ce type-là, il a fait une seconde de tchouva, quoi. Il n'a pas fait aucun acte, rien du tout. Il a décidé de faire tchouva, il était sincère, il a compris que ça ne marchait pas, il n'y avait rien qui marchait, il s'est tourné vers Hachem, en fait. Il a repris une position fœtale, quoi, comme s'il fait, moi je veux tout recommencer. Ça a été accepté. Donc, il n'y a pas toujours un acte. Et c'est possible que même quand il y a un acte, Le pardon, là, il dépend peut-être pas obligatoirement de l'acte. L'acte, c'est seulement une façon de montrer qu'on est sérieux. Un peu comme ce que nous faisons entre Rosh Hashanah et Kippour, où on fait un peu de poumrot qu'on va pas faire par la suite. À quoi ça sert de faire des poumrot? Tu sais très bien que tu vas pas le faire par la suite. Montrer, moi, je suis sérieux, quoi. Quelque part, je fais des actes. Même si ces actes ne sont pas des actes qui vont continuer d'être faits, etc.
C'est la marche avant, le regret, c'est ça.
Le regret, c'est pas suffisant.
Le regret de ne pas avoir fait des mitzvot. Et là, c'est quoi? C'est la marche avant qui
Ouais, le
fonctionne?
bonhomme, il se dit, bah, finalement, c'est pas vrai, etc. J'ai perdu du temps. Pourquoi je me suis imposé des restrictions, pourquoi j'ai pas mangé, pourquoi j'ai pas voyagé Shabbat, etc. Pourquoi j'ai pas mangé ces choses interdites, etc. Rambam dit, si quelqu'un regrette, enfin, il fait tout à l'envers, quoi. Il est tué à la Richelieu, il s'appelle. Alors, on peut dire que peut-être la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, décide de ne pas libérer les Bnei Israël, ne pas laisser Paro libérer les Bnei Israël maintenant. Il retarde la Géoula. Les Bnei Israël vont rester un peu plus longtemps en esclavage. C'est vrai qu'ils travaillent plus déjà. Depuis un an, ils travaillent plus. Mais ils sont formellement encore esclaves. Quelqu'un peut penser, pourquoi il pourrait penser, je vais fauter et je vais faire tchouva. Quoi ça? Parce que, comme c'est écrit que les balais de tchouva, ils se tiennent à un endroit où les tzadikim bourim ne peuvent pas se tenir. Donc les balais de tchouva sont au-dessus des balais de tzadikim sur ce plan-là. Quand quelqu'un dit, oh, si c'est comme ça, moi aussi je vais devenir balais de tchouva. Je vais faire des averot et je vais faire tchouva et je vais me retrouver plus haut que si je vis ma vie sans faire d'averot. Raisonnement imparable, non? Sauf que c'est marqué Maspikin Biyado. Hachem n'aidera pas. Et si Hachem n'aide pas, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on prie, on demande à Hachem de nous aider. C'est-à-dire, il nous aide, par exemple, en nous inspirant de faire tshuva sur certaines choses dans un moment ou dans un lieu où c'est il y a plus de chances que ça puisse marcher. D'accord? Si vous décidez d'arrêter de fumer et que vous êtes dans un milieu où tout le monde fume et on vous offre sans arrêt des cigarettes, c'est difficile d'arrêter de fumer. Et si tu arrêtes de fumer pendant que tu es en vacances, et que tu as déjà pendant les vacances françaises, 5 semaines, oui, tu as le temps de t'habituer à ne pas fumer. Quand tu vas retourner, ce sera déjà un peu plus facile de résister. C'est plus facile de... OK, que si tu as essayé en plein milieu de l'année où tous les gens t'offrent des cigarettes. Donc, si Hachem m'aide à faire tchouva dans un lieu, dans un moment où c'est plus facile et qui me donne un coup de pouce, quoi, que les gens, pour une raison ou une autre, ou bien parce que les cigarettes deviennent trop chères, alors personne n'offre de cigarettes à quelqu'un d'autre. Et comme j'en ai pas pour leur donner, ils m'en donnent pas. D'accord? Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Donc ça marche pas, ça veut dire on ne peut pas. On ne peut pas compter là-dessus. Alors, effectivement, Paro, voilà, il était à un endroit où il s'est complètement fourvoyé. Et donc, on va lui enlever la possibilité de faire tchouba. Ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire, Italalti? Je me suis moqué. Quand est-ce qu'il s'est moqué de l'Égypte? Après la Maka de Barad, la grêle, donc, Paro était prêt à, comme je vous ai dit, était prêt à renvoyer les Bnei Israël. Il ne l'a pas fait parce qu'Hachem a irbi et tlibo, comme il le dit. Donc les Bnei Israël restent plus longtemps, la Géoula est retardée. Le fait que Hachem n'ait pas permis à Paro de libérer les Bnei Israël quand il le voulait, c'est ça, c'est en cela qu'Hachem s'est moqué de l'Égypte. J'aurais pu le laisser faire. Et les Makot, les Égyptiens auraient pu les recevoir après, s'ils doivent les recevoir absolument. Ils peuvent le recevoir après que les ministres sont sortis. C'est ça qu'on appelle Italalti. Lui, il est prêt, et moi, je l'empêche. Il est prêt à les renvoyer. Il va céder. Il supporte plus. Hachem Irbid. Je lui donne du poids pour supporter.
Tu vois, Rachel est la mère, il y a Rachel qui dit que le système vient pas de la rapport, ils n'ont pas de sérénité. Il veut qu'ils se parlent, j'arrive pas à faire croire que c'est là une sérénité. C'est pour ça qu'on explique que le système.
Peut-être parce que, effectivement, ils ont une. Ils sont en état d'excitation permanente. Ils ont besoin de cette excitation. Donc, ça ne les laisse pas d'un autre côté. Ça ne les laisse pas réfléchir, quoi. Parce que. C'est ça qui les nourrit. Cette excitation les nourrit. Et donc, ils ne veulent pas se priver de ça. Si tu ne te prives pas de ça, tu n'as pas le temps de réfléchir.
Le système est un peu biaisé.
Ah non?
Le système est un peu biaisé, puisque eux, les Israéliens ne peuvent pas faire tout un truc sans félicité. Normalement, dans une spirale dans la direction, c'est.
Quand on dit qu'ils peuvent pas faire tchouva, ça veut dire le mode de vie qu'ils ont choisi, ce qu'eux appellent vivre, ça les entraîne dans cette situation-là. C'est-à-dire, on peut pas avoir ce qu'ils veulent avoir et avoir la sérénité qui permet de faire tout va. Marqué, j'ai pas un chat, il y a Le fameux passouk, Chodesh Hazé Lachem. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Chodesh, ce mois? Il n'a rien de particulier, c'est une nouvelle lune, c'est tout. Pourquoi est-ce que on va dire maintenant à Chodesh Hazé Lachem, Rosh Chodashim, la tête des mois, le premier mois des mois de l'année? Je me demandais effectivement, est-ce qu'il a vraiment quelque chose? Avant la Géoula, le clan Israël, en fait, avait besoin de zchouyot. Il avait besoin de mérite. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, comme je vous ai dit, ils étaient très très proches des Mitzrim. Ils étaient leurs esclaves, mais ils étaient proches d'eux. Ils étaient devenus idolâtres. Ils sont tellement idolâtres que même après la sortie d'Égypte, quand les Bnei Israël sont devant la Ils sont dans la mer, en fait. Et que les Égyptiens qui les ont suivis dans la mer sont aussi dans la mer, mais ils sont à pied sec. Hachem dit à Moshe, tu peux rabattre les murailles d'eau, et donc ça va noyer l'armée de Paro. Pardon? Paro était le seul survivant. Il était dans l'armée, mais il était le seul survivant. Pour qu'il puisse raconter. C'est marqué que les anges de service, ils ont crié au scandale. Allou Avdé Avelazara. Pourquoi tu sauves les uns et pas les autres? Et en fait, la réponse qu'Hachem a donnée, de celle qu'on connaît, quoi, elle n'est pas non plus très satisfaisante, parce que Hachem a répondu, oui, mais ceux-là, ils vont accepter la Torah. Mais c'est contraire au principe d'Asher Usham. On juge les gens par ce qu'ils sont au moment où on les juge, et pas sur ce qu'ils vont devenir. Or, Hachem a donné une réponse qui est, voilà ce qu'ils vont devenir, et je les sauve parce que je sais ce qu'ils vont devenir. C'est pas une réponse, en fait, complètement valable. Donc, ils sont idolâtres. Et comme je vous ai dit, ils sont tellement mélangés avec les Mitzrim que quand on va décrire le processus d'extraction des Bnei Israël, on va dire Goy mikerev Goy. Ce n'est pas qu'il y avait un camp de concentration avec les Juifs d'un côté, oui, c'est une espèce de poche, on les prend, on prend la poche, on la sort. Ils étaient partout. Donc il a fallu aller les chercher, les arracher des liens qu'ils avaient, pas obligatoirement des liens totalement favorables, bien que les Égyptiens ne les haïssaient pas, puisqu'ils savaient très bien que ce qui leur arrive, c'est parce que Paro n'a pas cédé. Et donc les Bnei Israël ont besoin de Sroute pour faire la différence en réalité. C'est comme si Hachem ne pouvait pas se permettre de sortir les Bnei Israël, de les séparer des Égyptiens alors qu'ils se conduisent exactement de la même manière. Et Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il allait leur donner deux zchouyot. Il leur donnait deux zchouyot qu'ils ont liées en fait l'un à l'autre. Il va leur donner la mitzvah du Korban Pessah. Il va leur ordonner de faire le Korban Pessah. Et il va leur donner la mitzvah de la Mila. Ils vont devoir faire la Mila, ce qu'ils avaient arrêté de faire pour se rapprocher des Égyptiens. À un moment donné, ils avaient décidé qu'ils allaient supprimer la Mila, qui était le seul signes distinctifs qu'il y avait, il n'y avait pas d'autres mitzvahs qui s'imposaient à eux. Le Rambam dit qu'en Égypte, on a pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Alors, à Chodesh Hazé Lachem, qu'est-ce qu'il a ce Chodesh? On voit, comme d'habitude, une nouvelle lune. Mais ce qu'on va voir, c'est que quand le mois en question va se dérouler, alors on va voir toutes sortes de choses arriver. Quand on arrive au mois de Nissan, pour lui-même, le mois de Nissan, quand il arrive, il vient pas nous annoncer quelque chose de bien particulier. Mais ceux qui s'occupent d'astrologie ou de, etc., eux, ils savent que ce mois-là, c'est un mois où se renforce en quelque sorte l'idolâtrie autour d'un agneau, l'agneau. L'agneau, c'est une divinité égyptienne. L'agneau, il représente la richesse, parce que l'agneau, il produit sa laine en permanence. Les poules, elles ne pondent pas toute l'année. C'est-à-dire, les animaux qui produisent, ils produisent pas obligatoirement toute l'année. Mais l'agneau, il produit toute l'année. Sa laine, elle n'arrête pas de pousser. Donc, c'est devenu une idole égyptienne. Mais ce rapport à Chodesh HaZelachem, ce mois-là qui est placé sous le signe de l'agneau, c'est le commencement de votre histoire. Pour nous, c'est un signe qu'il faut abandonner justement. Non, il faut abandonner l'agneau. Faut abandonner la recherche du luxe. Les Égyptiens, effectivement, ils étaient jamais préoccupés par l'absence de... Il n'y a pas de pluie, mais ça leur était complètement égal parce que de toute façon, les crues du Nil leur assuraient la subsistance. Et donc, ils pensaient qu'ils n'avaient besoin de personne pour accéder à la richesse. Et donc ils se sont éloignés en réalité d'un chemin naturel et ils sont passés à l'idolâtrie. Ils se sont mis à adorer tout ce qui leur amène la richesse et donc ils ont adoré le Nil. Les Égyptiens, eux aussi, ils voyaient bien que ce mois-là était le mois de l'agneau, en quelque sorte. Et donc, ils servaient comme on sert une idole. Donc, ils ne mangeaient jamais d'agneau. Et effectivement, ils ne supportaient pas les gens qui s'occupent de ça. Donc ça, c'est, disons, la vision égyptienne de l'agneau. Mais pour l'Ebné Israël, il y a une autre explication de ce Hakodesh HaZelachem. C'est notre commencement. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce qui commence là maintenant? Est-ce que vous allez faire comme les Égyptiens? Non. Vous allez faire exactement le contraire. Vous allez prendre cet agneau et vous allez en faire la shrita et vous allez le détruire, vous allez le manger. C'est-à-dire qu'il faut enlever toute trace de cette idolâtrie que vous avez fréquentée parce que vous étiez idolâtre avec les Égyptiens. Le commencement du clan Israël. C'est un commencement qui est, qui, si on peut parler comme ça, commence juste quand les Bnei Israël sortent d'Égypte. Le commencement des Bnei Israël, c'est Anochi Hashem Elokecha, Eloi Elecha. C'est les deux premières des Aseret HaDibrot. Les deux premières paroles, donc. Et quand on dit Rishonu le Chodesh Hashana, ce mois, c'est le premier parmi les mois de l'année. Si tu commences avec cela, c'est que tout ce que je fais, le fait par rapport à ceci, alors il sera vraiment Rosh Chodashim. Il sera vraiment le premier des mois de l'année. En quelque sorte, toutes les idoles sont détruites en même temps que tu détruis l'idole égyptienne. Alors maintenant, on comprend que est-ce qu'on peut nous séparer des Égyptiens dépend de cela, justement. Dépend de ce Corban Pessah, ce Corban où va manger l'agneau. C'est comme ça qu'il dit, quand tu déroules le mois, quand tu arrives au 10 du mois, alors vous allez prendre, chacun va prendre, Ish Seh le Betavot, va prendre un Seh, va prendre un agneau ou un cabri, et vous allez dire, cet agneau, ce cabri, il est pour mon Korban Pessah. On fait la Shrita le 14 Nissan. Et ça, donc, vous allez le garder entre le 10 et le 14. Vous allez le surveiller, qu'il ne prenne pas de défaut, etc. Et après ces 3 jours entiers, là, que vous l'avez gardé, vous allez faire la shrita. Quand vous aurez fait ça, dit Hachem, alors je saurai que vous êtes prêt à accomplir mes mitzvot. Comme ça, vous serez arrivé à un moment où on peut plus, il n'y a plus de possibilité de retour. Vous avez mangé la divinité égyptienne. C'est pour ça que il nous reste une halakha de vérifier dans le Coran Pessah pendant 4 jours, enfin 3 jours pleins, quoi, entre le 10 et le 14, qu'il n'a pas de moumim, que le Corban n'a pas de défaut. Aujourd'hui, c'est plus une provocation par rapport aux Égyptiens, mais on a gardé ça comme souvenir, en fait. Il suffit pas d'aller vérifier ça à la dernière minute. Chaque jour, tu dois t'occuper de ton Corban Pessah. Et c'est une façon de dire, j'ai pas changé d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Les Égyptiens, bien sûr, ils n'ont jamais mangé leur idole. Vous avez mangé cette espèce de symbole que le monde, en fait, il repose sur le luxe, et sur toute la permissivité, etc. Et nous, on montre que le monde tient sur le Shachatou à Pessah. Enfin, tout est à Pessah. Donc c'est pour ça que ce mois-là nous est donné comme Rosh Hodashim. Les Bnei Israël ne s'occupent pas du tout du mazal en question, de cet agneau. Nous, on s'intéresse seulement à ce que Hachem veut nous donner, en fait, et pas à ce que les gens prennent pour eux. Et ils pensent que ils l'ont eu grâce à leur idole. Alors, encore une chose qu'il faut dire, c'est que Paro, finalement, il a dit à Moshe, regarde, regarde votre thème astral. Le thème astral d'Ebné Israël, c'est la planète rouge. C'est-à-dire, c'est la mort. Donc, vous allez droit à la mort. Il a dit, c'est pour ça que moi, je vous dis, laissez au moins les enfants ici. Peut-être que vous allez être confrontés à la mort, c'est la guerre, etc. Les enfants, ils n'ont rien à faire là-bas. Laissez-les ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a une certaine réalité de cette espèce de cette astrologie-là. C'est bien qu'il y a une grande marloquette entre Rambam et les autres, s'il y a une réalité de l'astrologie. Que les planètes et les étoiles aient un impact sur nous, c'est évident, c'est de la physique. Mais combien cet impact, dans quoi il joue exactement, c'est compliqué. Puis c'est des. Bon, essentiellement, à part les marées, on ne le voit pas très, très clairement, cet impact. Mais il est là, c'est de la physique pure. Pardon?
C'est bon.
Il y a aussi les saisons. Bon, ça dépend effectivement de la rotation de la Terre, ça dépend de. Mais la Torah n'a pas dit que ça vaut rien du tout. C'est pas marqué que la Torah elle a réagi à ça. Mais c'est marqué que les deux sfrouyot que les Bnei Israël ont reçues, c'est lié au sang. La Mila, on va verser le de sang, et le Corban Pessah, on va utiliser le sang pour marquer notre identité en quelque sorte. Et donc ça veut dire que quand quelqu'un il a un certain mazal, en fait, le mazal, il ne dit pas où tu en es dans le mazal. Le mazal, c'est tout un spectre. Quand tu as un spectre qui est rouge, mais ça peut être que tu vas devenir un bandit des grands chemins, un assassin. Tu peux aussi devenir, je sais pas, tu peux devenir chirurgien. Tu peux devenir boucher, chochet, peut devenir Moël. Donc il y a tout un spectre en fait de relations avec ce Mazal Adam. Et donc ce qu'Hachem nous a fait faire avec ces mitzvot, il nous a fait faire des mitzvot, c'est-à-dire tirer. Oui, il y a le rouge, mais on ne peut pas lutter frontalement contre le rouge. Mais par contre, on peut, en quelque sorte, choisir dans le rouge la façon dont on veut se situer par rapport à lui. Alors, ça peut être la guerre, mais ça peut être aussi la Mila ou Korban Pessah ou etc. Ou la chirurgie, ou ça peut être des choses intéressantes, constructives. C'est-à-dire que quand quelqu'un il se rend compte qu'il a il est sous une certaine tendance, etc., il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas. Il s'agit de se demander alors, si c'est vraiment une tendance chez moi, quoi. Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tendance-là? Quelles sont les bonnes choses qu'on peut faire avec cette tendance-là? Quand Shmuel avait reçu l'ordre d'aller couronner, d'aller oindre, pardon, un des fils de Ishaï, et qu'il s'est complètement trompé sur les 8 fils d'Ishaï, et qu'à la fin, il a dit à Ishaï, mais ah oui, j'en ai encore un, il est en train de s'occuper des troupeaux, etc. Ishaï ne considérait pas vraiment David comme son enfant, parce qu'il croyait que David était un mamzer. Il croyait que c'était un mamzer. Parce que vous vous souvenez, Ishaï fait partie des gens qui sont seulement morts pour faire comme tout le monde. Ça s'appelle Beit Yoshe Nachash. Mais quand même, on raconte une drôle d'histoire de ce Ishaï. Un beau jour, il en a eu marre de sa femme, je crois. Il a donné rendez-vous à une des servantes dans la grange pour. Et la servante, elle était de mèche avec la femme. Et donc, elle est ostensiblement entrée dans la grange, pour qu'il la voit bien entrer. Et la femme, elle est entrée par l'autre entrée, elle est sortie. Et Isha, il a eu un rapport avec sa femme, en pensant qu'il avait un rapport avec sa maîtresse, avec la servante. Mais après, quand sa femme était enceinte, et il croyait savoir qu'elle n'était pas enceinte de lui, eh ben, il a considéré que, bon, c'est pas le prouve n'importe quoi, mais ma femme, ça doit être, bon, l'enfant, il doit être un mamzer. Et donc, quand Shmuel lui dit, convoque tes fils, il le convoque même pas. Et quand David arrive, on va le chercher, il arrive. Qu'est-ce que dit Shmuel? Mais c'est Essav. Il était roux. Probablement qu'il était peut-être un peu poilu, je sais pas. Il dit, mais c'est esclave. Et Hachem lui dit, oui, c'est esclave. Mais il a de beaux yeux. Beaux yeux, ça veut dire qu'il respecte la halakha. Les yeux du clan Israël, c'est le Sanhedrin. Enei Haïda, ça s'appelle. Et donc, les beaux yeux, ça veut dire respecter la C'est vrai, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui veut faire la guerre, etc. Mais il respecte la halakha. Il fera la guerre, mais quand il faut demander la permission pour faire la guerre au Sanhédrin, il n'est pas demandé. Ça veut dire que il a un mazal maadim. Et ça aussi. Mais, contrairement à ce que Shmuel pensait, après, il est très attaché à David, après Shmuel, mais au départ, il s'en est remis aux apparences. En soi, c'est étrange, parce que Shmuel, il est très très grand. D'accord? C'est marqué dans le texte. Shmuel, c'est Moshe, Aaron, Bechoranav, Shmuel, Bekoré, Shemo. Ils sont au même niveau. Donc il est au même niveau que Moshe et Aaron. Donc Akadosh Baruch Hou a montré au Bnei Israël, et on a l'impression, si j'ai bien compris, oui, j'aurais tendance à dire que le clan Israël, il a un mazal maadim. Alors c'est curieux. Le clan Israël qui descend de Yaakov, il a le mazal de Esav. C'est juste des questions, c'est pas. Ça s'arrête là.